Radio Foot International, Marie-Amélie Motte.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier Radio Foot de la semaine. Aujourd'hui, on va revenir sur le doublé de Sadio Mané avec les Reds hier, victorieux à Chelsea. Le Sénégalais ne cesse de progresser, jusqu'où peut-il aller? On parlera aussi de la performance historique d'Harry Kane avec Tottenham contre Southampton. 4 passes décisives pour son coéquipier Heung-Min Son. Les Spurs flamboyants en attaque alors qu'ils s'apprêtent à voir revenir l'une des idoles du club. Gareth Bale va être prêté toute la saison par le Real Madrid. Les supporters des Stars gâtés hier, à l'inverse de leurs homologues marseillais. Triste match nul contre Lille, un partout au Vélodrome. Mandanda et Germain encore décisifs, mais un collectif qui laisse à désirer. Alors que peut faire l'OM pour réellement lancer sa saison? Et puis on terminera l'émission en se penchant sur les buteurs africains de Ligue 1, très en forme depuis un mois. Et nous serons en direct avec Stéphane Baoken, l'attaquant du SCO d'Angers et international camerounais. Avec moi aujourd'hui, un très beau casting pour débuter cette semaine, Salim Bogat.
Bonjour à Marie-Amélie, bonjour à toutes et tous.
Habib Bey est là également. Bonjour
Habib. Bonjour à tous.
Et puis Patrick Juard complète ce magnifique casting, effectivement. Bonjour Patrick.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous.
Allez, Radio Foot, c'est parti.
Oh, bien joué, l'une de Firmino Salah, la tête de Sadio Mané. Quel mouvement des trois génies de Liverpool, Firmino Salah Mané. Et c'est le génie sénégalais, Sadio Mané, qui est à nouveau décisif. Oh, Sadio Mané sur les hors de Kepa Malaga. Encore une erreur du gardien de Chelsea, sanctionné net par Sadio Mané. Le doublé, évidemment. C'est un arrêt victoire 2-0. Un succès signé de la classe de Sadio Mané.
Sadio Mané, the time to win Mané. Here to come, why say Mané? We're all drinking in Mané.
Sadio Mané, une fois de plus, irrésistible avec Liverpool hier, victoire 2-0 sur le terrain de Chelsea. Le Sénégalais a fait basculer le match en provoquant l'expulsion d'Andreas Christensen juste avant la mi-temps. Et juste après, il a inscrit ses deux buts en moins de 5 minutes. On écoute tout de suite sa réaction après la rencontre.
Bon, ce qui est clair, c'est que ça a été un match très rude, surtout la première période. On a eu beaucoup de mal à se créer des occasions, et quand ils ont pris un rouge, ça a tout de suite été plus facile. En deuxième période, on a finalement réussi à marquer 2 buts, et je pense que c'est mérité. Sur le premier, Firmino m'a donné un super ballon. C'est un super joueur, on se connaît bien. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Il est toujours très bon quand il faut faire la dernière passe, et moi, je n'avais plus qu'à la mettre au fond des filets.
I try to make the runs and I find the ball in front of me.
Et en plus, il met en avant ses coéquipiers, Sadio Mané. Salim, est-ce qu'on peut presque dire qu'il a réalisé un match parfait hier?
On ne réalise jamais de match parfait, mais c'est vrai que lui, il a été plus que décisif. Vous l'avez dit, ses 2 buts, vous l'avez dit. Il a entraîné l'exclusion de Christensen avec un appel parfait sur une balle parfaite de Henderson. C'est vrai que son match a été remarquable. Et c'est vrai qu'on l'attendait aussi après un match de Community Shield où il avait été en deçà. C'est un fait, ça peut lui arriver aussi après une saison assez incroyable avec Liverpool. Ou lors de la première journée, il avait été aussi en deçà par rapport à Mohamed Salah qui lui avait été exceptionnel. Bon, on attendait la première rencontre étincelante de Mané. Il a répondu présent dans un grand match, c'est à noter.
Ouais, tout à fait d'accord avec Salim. J'apprécie, comme vous le dites, qu'il mette en avant ses coéquipiers parce que il est très modeste. Il dit j'avais plus qu'à la mettre au fond, mais bon, la tête qui marque. Alors effectivement, il est pas loin, mais ça claque bien. Il la place parfaitement. Enfin, c'est n'importe qui l'aurait pas mise avec une telle.
Habib, il la met sans problème.
Habib, sans doute. Évidemment. Mais d'autres joueurs, peut-être pas. Le timing, la puissance, le fouetté du ballon, tout ça, c'est. Alors que c'est pas Sadio Mané n'est pas réputé être un joueur de tête. Ensuite, bon, il y a son côté malin, opportuniste qui traîne et qui exploite parfaitement l'énorme bourde du gardien le plus cher du monde, le gardien de Chelsea. Pour encore un match, et on en parlera peut-être plus tard. Finalement, il a en quelque sorte entériné le transfert de son compatriote et coéquipier en sélection, Edouard Mendy, et justifié totalement ce transfert qui va se faire dans les jours qui viennent. Donc, une journée parfaite pour lui, et voilà, que dire de plus, c'est le symbole de l'efficacité de Liverpool, hein. Il y a toujours un joueur qui personnifie, qui est le dernier étage de la fusée. La première journée, c'était Salah. Maintenant, c'est Mané. Ce sera peut-être Firmino au prochain match. La machine tourne à plein et ils ont en plus réalisé quelques recrutements qui vont encore apporter un peu d'huile dans ces rouages. Donc, tout ça est parfait. C'est un club gérer magnifiquement. Il y a pas, pour l'instant, on voit pas quel grain de sable peut enrayer la machine.
Alors à propos de Sadio Mané, Gary Neville a été dithyrambique sur Sky Sports hier. Il a insisté notamment sur le fait que Mané est excellent balle au pied, évidemment, mais aussi quand il n'a pas le ballon justement, il a encore progressé en termes de pressing, de harcèlement de l'adversaire.
Oui, c'est clairement ce que demande Jürgen Klopp à son équipe. Ce qui est assez incroyable, c'est que le deuxième but résume ce qu'est Sadio Mané et résume ce qu'est cette équipe. C'est-à-dire que c'est lui qui fait cette passe, c'est une mauvaise passe, on le voit s'agacer. Et en fait, tout de suite, il reconnecte à l'aspect d'aller presser Kepa, parce que c'est une passe qu'il donne et une mauvaise passe. Et on voit que c'est lui qui va chercher justement ce pressing auprès du gardien de Chelsea et qui marque ce deuxième but. C'est à l'image de Sadio, c'est un joueur qui est humble, qui travaille constamment. Il est aussi en concurrence avec Salah, même si ce sont deux joueurs qui s'apprécient, mais Salah avait mis un triplé, donc il fallait pour lui aussi essayer d'équilibrer un petit peu les comptes. C'est un joueur qui pour moi est parfait dans ce club-là, c'est-à-dire qu'il a eu des sollicitations, mais lorsque vous re-signez dans un club comme celui-ci, qui a fait finale de Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue des Champions et champion d'Angleterre, il est à sa place, il est adoré par cet entraîneur et surtout c'est le joueur que préfèrent les fans de Liverpool. Donc il est vraiment dans un fauteuil et c'est surtout qu'il est très performant.
Oui, pour prolonger le propos de d'Habib, c'est vrai que Mané, et Habib l'a très bien dit, il est adoré par Klopp. C'est très bête et Habib a été joueur contrairement à moi. On le sait, quand un coach vous aime, ça change beaucoup de choses. En plus, vous avez le cercle vertueux des résultats, des titres. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour, même si demain vous avez des noms ont été évoqués, le Barça et d'autres grands noms qui s'intéressent à vous, vous êtes aujourd'hui dans l'un des 2-3 meilleurs clubs du monde où vous êtes dans un cocon parfait. Pourquoi partir en fait ?
Alors, 18 buts et 9 passes décisives pour Sadio Mané en Première Ligue la saison passée. Est-ce qu'il a les capacités d'aller encore plus loin, de dépasser peut-être la fameuse barre des 30 buts par exemple ?
Il pourrait, après il y a un handicap, c'est qu'il ne tire pas les pénaltys. Donc mine de rien, on se rend compte que Salah en a mis 2 si je me trompe pas. Donc c'est pour soigner les stats, c'est toujours important. C'est un joueur qui se met pas en avant, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même à l'image de sa communication, il ne le fait jamais. Et si aujourd'hui il veut prétendre aller chercher ce qu'on peut appeler le Graal, c'est-à-dire les trophées individuels, il faut avoir ce côté un peu autopromotion. Sadio décide de pas le faire et c'est son choix, et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui il est reconnu dans l'Europe et dans le monde pour être un joueur fantastique. Peut-être que sa limite, elle est aussi là.
Côté promotion des Ronaldo, des Messi.
Oui, ils ont tous cette promotion. Alors, Messi, il a pas besoin et c'est pas son style. Et puis de toute façon, la promotion, elle est faite par d'autres personnes. Oui. Je pense que Sadio est ce joueur-là, il restera ce joueur-là qui est capable de marquer 25-30 buts dans une saison. Il a été meilleur buteur du championnat d'Angleterre il y a 2 ans avec Aubameyang et Salah. L'année dernière, il a été un peu moins efficace, mais il l'a quand même été pour Liverpool, et Liverpool a été champion. C'est un homme de collectif. Je crois que ça sera jamais en fait un homme de trophée individuel. Alors on espère qu'un jour il en gagnera un. C'est comme on pensait aujourd'hui au Buffon, à tous ces joueurs-là. On a dit on aurait adoré voir Iniesta, on aurait adoré voir Xavi, on adorerait voir Sadio Mané pour ce qu'il représente, mais il est forcément en dessous en termes d'autopromotion par rapport aux autres. Et c'est un petit handicap.
Après, c'est pas une condition, alors je suis d'accord globalement, mais c'est pas une condition absolue, puisqu'on a vu Modric gagner un ballon d'or, on a vu Nedved gagner un ballon d'or. On peut espérer pour Sadio Mané qu'à la retraite prochaine des Galactiques, Cristiano Ronaldo et Messi, il y ait peut-être une opportunité pour des joueurs un peu moins extraterrestres, entre guillemets, comme lui et comme d'autres, plus collectifs, d'être des prétendants plus sérieux. Et ça passe aussi peut-être par un gros parcours du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde.
Je vais me répéter, Modric, européen, Nedved, européen, tu peux me dire ce que
Croatie
tu veux.
Oui, mais Croatie finaliste de la Coupe du Monde.
Oui, mais finaliste de la Coupe du Monde.
C'est non prévu au départ.
Oui, je suis d'accord
chose
avec toi. Mais ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus mis en valeur par rapport à leur pays, par rapport à la reconnaissance qu'ils ont. Et surtout, l'écho que ça peut faire lorsque un Modric est performant avec la Croatie. Ça a beaucoup plus d'écho. C'est ce que je pense. Et après, encore une fois,
ça se discute.
On peut toujours avoir ce débat et on va l'avoir pendant des années et des années. Ouais. Mais c'est vrai que pour Sadio, forcément, il y a moins d'impact à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il a pas besoin de ça.
Et après,
il le fait avec beaucoup de sincérité.
Ce sera pas pour cette année, il y a pas de ballon d'or.
Voilà, c'est déjà.
De toute façon, ça aurait pas été lui.
Pour Sadio Mané. Après, effectivement, il faudrait quand même que le Sénégal réussisse un très grand parcours quand même en Coupe du Monde pour être mis en valeur. Mais une année où il y a pas de mondial, c'est là où vous observez quand même que la Ligue des Champions, par exemple, ou que le championnat. Et là, j'ai presque envie de dire, le souci, c'est qu'il a des coéquipiers. Mohamed Salah, par exemple, qui est amené régulièrement à marquer peut-être plus que lui. Et là, à un moment donné, on les visualise et on regarde les stats. Et malheureusement, il y a les stats aussi qui font que Mané sera souvent devancé par Salah aussi.
Alors, Mané devancé peut-être par Salah, mais en tout cas maintenant, il dépasse Cristiano Ronaldo en termes de...
C'est pas mal, hein.
Sur le nombre de buts marqués en première ligue, ouais. C'est quand même pas mal. 86 buts en 196 matchs avec Liverpool. Sur quels aspects il peut encore progresser, Sadio Mané, justement, pour arriver encore plus haut?
Sur quels aspects? Je pense qu'on peut progresser
à
tout âge.
Vous parlez du jeu de tête.
Non, dans le jeu de tête, il marque beaucoup de la tête. On se rend pas compte, mais je trouve qu'il marque pas mal de la tête dans des situations où il est souvent trouvé par Firmino. Après, là où il peut progresser, c'est sur le fait de devenir peut-être le leader d'attaque de cette équipe, c'est-à-dire avoir un ego un petit peu plus important.
Mais est-ce qu'on veut qu'il ait cet ego? Moi,
On voit pas les choses comme ça, mais on demande aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour que Sadio Mané soit considéré autant qu'un Mohamed Salah. Tu l'as dit toi-même. C'est qu'aujourd'hui, quand Salah a marqué 22 buts et que Sadio Mané a marqué 22 buts, tout le monde disait Salah a fait une saison extraordinaire. Mmh. Or, les deux avaient fait la même saison.
C'est-à-dire
qu'il y a toujours un moment donné, t'as toujours un moment donné, une forme de rivalité qui est liée à ce que tu es en tant qu'homme.
Bien sûr.
Et on met des gens devant toi parce qu'ils ont plus d'influence médiatique, de charisme, tout ce que tu veux. Sadio est indiscret. Sadio, aujourd'hui, tu regardes la finale de la Ligue des Champions lorsqu'il joue contre Tottenham, il est pour moi l'un des meilleurs joueurs de la finale. Pourtant,
il est décisif.
Personne le dit.
Bien sûr.
Pourtant, tout le monde parle de Mohamed Salah parce qu'il a marqué ce fameux pénalty que Sadio a obtenu. Tu vois ce que je veux dire? C'est cet écho médiatique qui fait que Sadio n'en veut pas et de toute façon ne le revendique pas. Donc à partir de là, il est un petit peu plus discret. C'est peut-être cette marge de progression qu'on va lui demander. C'est de s'affirmer un petit peu plus comme un vrai leader, comme le boss de Liverpool. Je suis pas sûr qu'il soit capable de le faire.
C'est ça.
Mais j'aimerais qu'il le soit un petit peu plus, je trouve, dans ce qu'il dégage au quotidien.
Moi, je suis pas sûr aussi que Jurgen Klopp désire qu'un de ses trois attaquants, un de ses trois membres du trio offensif prenne l'ascendant sur les deux autres. Et je pense que la force de Liverpool, c'est cette émulation interne aussi entre ces trois joueurs qui se tirent un petit peu la bourre match après match pour surtout vrai pour Salah et Mané qui sont un peu les deux finisseurs excentrés et Firmino qui est un peu le pivot, le joueur la plaque tournante. On les voit se tirer la bourre et ça c'est pour le bien de l'équipe parce que malgré
tout. Oui, mais tu parles de Klopp. Qu'est-ce qu'a fait Klopp?
La lutte d'ego, elle reste toujours à un niveau très raisonnable qui va pas pourrir le vestiaire ou les relations entre les joueurs, qui va pas dérégler la bonne marche du collectif.
Patrick,
et ça, c'est la force
Klopp.
De Klopp, c'est que je pense aussi, il sait bien doser les compliments et les exigences.
Oui, mais il n'a pas dosé les compliments, parce qu'il a ouvertement dit devant tout le monde que Van Dijk était le meilleur. Ouvertement, il a pris position lors d'un trophée individuel en disant Van Dijk est le meilleur joueur. Donc tu me dis qu'il...
Après la clôture des votes.
En ne choisissant pas un attaquant, c'était aussi...
Non, il a parlé avant les votes.
Mais même avant, au final, il garde une certaine neutralité. Il ne choisit aucun attaquant. Et en défense, Van Dijk étant le leader, au moins, il réussit à garder
une certaine position. Il prend quand même position.
Sans le faire entre les deux, justement. C'est ce que dit Salim.
On va revenir au match quand même d'hier contre Chelsea. Sadio Mané et les Reds évoluaient dans leur 4-3-3 habituel. Mm-hmm. Sauf que pour pallier les absences de Joe Gomez et Joël Matip en défense centrale, mm-hmm. Jurgen Klopp a aligné Fabinho à côté de Virgil van Dijk justement. Et le Brésilien était plutôt impressionnant à ce poste-là, Salim.
Le truc, c'est que c'était une rumeur qui était évoquée depuis plusieurs jours déjà, notamment déjà avec les rumeurs Thiago Alcantara qui allait arriver. On va évoquer Alcantara dans un instant, mais on se disait si Alcantara arrive, à un moment donné avec Alcantara, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Keita, Milner au mi-temps, ça va faire un peu beaucoup. Donc peut-être trouver une autre solution pour Fabinho. Il peut jouer arrière droit, il l'a déjà fait à l'époque de Monaco. Il peut jouer défenseur central, il l'a fait à Monaco. Et hier, effectivement, à côté de Van Dijk, on se dit que sa qualité de relance peut être un plus. Et hier, les deux ensemble, ça a marché. Alors c'était un match, il faudra le voir évidemment sur le long terme, mais les deux ensemble, dans le duel également, Fabinho a été très intéressant, surtout en première quand Chelsea était à 11 à ce moment-là. Enfin vraiment, Fabinho,
Il l'a déjà fait en dépannage. Fabinho a déjà joué défenseur central
pas souvent,
à Liverpool.
En Ligue des Champions, il avait fait face au Bayern, mais c'est pas souvent le cas quand même.
Mais ce qui va lui donner l'opportunité avec l'arrivée d'Alcantara, c'est pas forcément de faire glisser Fabinho en défense centrale. Il pourra aujourd'hui changer de système. Alors c'est pas Klopp, mais il pourra changer de système. Et en Ligue des Champions, on s'est rendu compte que son 4-3-3 s'est un petit peu essoufflé. On peut penser aujourd'hui voir un Thiago Alcantara et éventuellement Fabinho l'un à côté de l'autre et peut-être ne passer qu'à deux attaquants et pas trois attaquants. C'est une possibilité aussi pour Jurgen Klopp parce qu'on lui a reproché un petit peu d'avoir ce 4-3-3 qui s'est essoufflé et qui était devenu un peu prévisible. Alcantara va lui donner l'opportunité d'avoir un petit peu plus de variété dans son jeu parce que c'est un profil qu'il n'avait pas. C'est-à-dire ce profil-là, il ne l'avait pas. Et je pense que c'est important. Et d'ailleurs, Alcantara a déjà battu un record, Salim, sur ce match-là, en première ligue, dès son arrivée. Donc c'est une bonne chose.
75 passes réussies en une mi-temps. C'est un record en première ligue, effectivement. Donc je rappelle que Thiago Alcantara est arrivé du Bayern de Munich cet été. Et donc il a joué sa première moitié de match hier, puisqu'il a remplacé Jordan Anderson à la mi-temps. Et très vite, il s'est complètement fondu dans le collectif des Reds.
Je vais même prolonger votre propos. Et c'est même pas cet été. Il est arrivé il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Et c'est ça, en fait, qui est affolant. C'est quand on a vu le match hier, à l'issue de la rencontre, donc, juste en 45 minutes, il a touché 89 ballons. Plus que tous les joueurs de Chelsea qui ont joué 90 minutes. Donc, c'est vous dire quand même déjà l'importance et l'impact qu'il a au milieu de terrain, même si Chelsea était à 10 en seconde période. Mais surtout, c'est la manière dont il joue avec ses coéquipiers. On a l'impression qu'il joue avec eux depuis des années. Il se trouvait facilement, aisément, Fabinho l'a dit derrière, et puis, ses partenaires au milieu, et donc en attaque. Enfin, c'est ça qui est impressionnant, c'est de Thiago Alcantara s'est fondu dans
c'est
le système.
C'est un cadeau, c'est quelqu'un qui respire le football, c'est un joueur exceptionnel. En plus, il peut occuper plusieurs postes avec un bonheur à peu près égal. Il peut jouer en meneur reculé. Il peut aussi jouer plus près des attaquants. Donc, ça pourrait permettre à Klopp de mettre en place un 4-2-3-1 aussi. Si on laisse deux milieux travailleurs, un Alcantara un peu en électron libre, les deux sur les côtés, Salah Mané et Firmino en pivot, tout ça est possible. Enfin, effectivement, ça lui donne beaucoup de possibilités. Il faut pas oublier que sur certains matchs, pour la rotation, on peut aussi l'imaginer associé avec un Naby Keita, par exemple. Tout ça donne des possibilités infinies à Klopp. Et on sent que là, autant sur les deux précédents mercato, ils avaient plutôt joué une certaine forme de stabilité, autant on sent que l'échec en Ligue des Champions l'a beaucoup énervé, malgré tout, je pense, en interne, et notamment Klopp, et il s'est dit, bon, là, il faut mettre des ingrédients en plus, il faut ajouter du piment.
Mais à 30 millions,
à la
vous prenez tous les jours. Alors, il voulait pas aller ailleurs à Thiago Alcantara, voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont eu à 30 millions. Mais à 30 millions, toutes les équipes européennes auraient dû être sur le marché.
Mais franchement, entre Thiago Alcantara qui est arrivé, donc au milieu de terrain, avec toutes les solutions évoquées, Diogo Jota, qui est arrivé également sur le côté, alors pour 43 millions certes, mais il sort d'une saison remarquable avec Wolverhampton, et ça vous offre une solution supplémentaire. Tsimikas qui est arrivé en latéral aussi, Fabinho que vous reculez entre guillemets, j'y mets entre guillemets, c'est presque votre nouvelle recrue. En défense centrale, vous avez réussi à renforcer toutes vos lignes. Liverpool me paraît encore plus fort que d'habitude. C'est invraisemblable, cette équipe va être encore quasi indéboulonnable.
Ouais, on a hâte de voir ça pendant le reste de la saison. Un mot sur Chelsea. Alors, je vois Salim Pongali qui hausse les sourcils. Non. J'ai pas besoin de poser de questions.
Non, mais c'est compliqué. Le problème, c'est que au bout de 2 journées, déjà juger Chelsea, ça me paraît un peu délicat, étant donné qu'il y a quand même eu un recrutement et donc des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et surtout, certains nouveaux joueurs sont toujours pas là. Chilwell
oui.
est blessé, Thiago Silva blessé, Ziyech est blessé. Havertz et Werner, ce n'était que leur deuxième match en Première Ligue.
Havertz, ça va être compliqué. Il va falloir qu'il s'étoffe. J'ai vu ces deux matchs. C'est un joueur qui est techniquement très très
bien
bon,
sûr.
Mais qui pour la première ligue va devoir prendre quelques kilos, je pense.
Là où Werner, je le trouve plutôt intéressant.
Bien,
je trouve vraiment intéressant. C'est pour ça qu'au bout de 2 journées, à mon sens, faut surtout pas juger face à une équipe qui elle était déjà parfaitement rodée. Aujourd'hui, Chelsea,
il faut pas juger, mais il y en a un qui est déjà condamné. C'est le fameux gardien cher du monde. Là, c'est Lampard l'a carrément exécuté.
Mais je pense qu'il a déjà été condamné depuis très longtemps. Oui. Il avait déjà été condamné par Sarri, en quelque sorte.
Et là, Edouard Mendy va quand même avoir une certaine pression sur les épaules parce qu'il va découvrir un nouveau championnat alors que ça fait même si c'est un joueur qui a passé les 25 ans, mais il a une expérience de la Ligue 1 qui est encore assez récente. Il va devoir tout de suite se mettre au niveau d'un club à forte pression médiatique comme Chelsea. Il arrive après un gardien qui a été un échec, donc il a intérêt à avoir, je pense, le mental bien aiguisé, ami Mendy.
Ouais, en tout cas, ce qui va être intéressant à Chelsea, c'est que donc là, il y a un gardien qui est quasi mort, entre guillemets, mentalement, qui n'est pas Arrizabalaga. Edouard Mendy, il a une grosse carte à jouer, mais je ne le souhaite évidemment pas, il a tellement de qualité, mais imaginez qu'il se rate. C'est impossible, on ne sait jamais. S'il se rate dans les premiers matchs, vous allez avoir deux gardiens qui vont être pas bien.
Se blinder,
et le problème, c'est que le mercato, après, c'est en janvier, quoi.
On va tout de suite passer à la suite, à savoir le carton des Spurs hier. Et oui, 5-2 sur le terrain de Southampton.
Heung-min Son with a wonderful finish. Kane, Son, and Son has scored again. Is Son in again? Flag stays down. Heung-min Son on a hat-trick, gets it. Kane and Son. He's worked it into Son again. I do not believe it. Kane's there to score now. Harry Kane has his first Premier League goal of the season. The Son and Kane show keeps on going.
Jekyll et Jekyll sont de drôles d'oiseaux, de joyeux corbeaux. Jekyll et Jekyll font les 400 tours.
Quadruplé de Hong Min-son hier et un petit but bonus.
Lequel est Jekyll, c'est la question.
Voilà, exactement. Exactement, donc festival de la part des deux joueurs très complices sur le terrain. 4 buts du Coréen pour autant de passes décisives de l'Anglais. Et c'est tout simplement la première fois dans l'histoire de la Première Ligue qu'un joueur offre 4 passes décisives au même coéquipier. Bon, alors la performance des deux, évidemment remarquable, mais je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que vous ne pensez pas que la défense de Southampton leur a un petit peu facilité la tâche quand même?
Ben oui, on va être très, très honnête. Même si les deux joueurs sont d'une qualité remarquable, on s'attardera à l'instant là-dessus. C'est vrai que Southampton, sur les 4 buts, il y en a 3 qui sont quasi similaires en fait. Genre oui. De ballon un peu dans le dos de la défense. Alors une fois quand ça passe, bon ça arrive. 2 fois quand ça passe, mais 3 fois de la même manière, avec toujours une défense qui est très haute. En plus, une défense haute face à des joueurs comme Son, face à Kane. Oh, c'est Hasenhüttl, c'est totalement loupé sur cette rencontre.
C'est un peu
pour ça qu'il y a autant de
dommage d'une certaine manière, parce que le score est sans appel. C'est une vraie punition. Si on voit que les buts, ça a un effet un peu effectivement répétitif, on peut se dire mais Southampton est ridicule. Mais sur le match, Southampton, dans les intentions, dans la qualité des enchaînements, il y a eu des bonnes choses, mais en revanche, effectivement, c'est des équipes qui jouent trop haut par rapport à la qualité de leur défense. C'est-à-dire, si on n'a pas des défenseurs qui peuvent fermer très vite, quand on joue aussi haut, on se fait punir avec des joueurs aussi précis et rapides que Kane et Son. Donc, ça, au Southampton, il y a des réglages à faire, mais moi, je clouerai pas cette équipe, je la condamnerai pas définitivement.
Absolument. Non, mais après, ils sont très complémentaires. Ils ont cet aspect d'être capables tous les deux de prendre cette profondeur. Donc en fait, il y en a toujours un qui décroche, un qui prend la profondeur. Et sur ça, ils sont vraiment rodés. Ils se trouvent un petit peu les yeux fermés, à l'image du but où Kane centre côté droit. En fait, il centre un petit peu à l'aveugle. Et puis vous avez des jours comme ça où tout va. Et pour Hong Min-son, on avait l'impression qu'il aurait pu se retrouver 10 fois devant le gardien. Il aurait marqué 10 fois. Il a été très très juste dans ses 1 contre 1, beaucoup de spontanéité. Et puis c'est vrai que Southampton a laissé pas mal d'espace dans le dos, mais ils le font très souvent. C'est quand même une récurrence dans leur jeu. Et on va pas changer en fait la façon de jouer parce que c'est Tottenham. C'est juste qu'il faut des ajustements. Et c'est vrai que ces ajustements-là, dans la coordination des deux attaquants, bah Southampton s'est fait piéger.
Alors l'autre bonne nouvelle du week-end côté Tottenham, c'est évidemment l'annonce du retour de Gareth Bale, le Gallois qui va être prêté par le Real pour toute la saison. Il va falloir lui faire de la place devant.
Oh, je pense que Gareth Bale, vous lui faites la place comme il faut, hein, pour le coup, vu le nom, vu le retentissement d'une telle arrivée. Déjà, il va falloir qu'il se remette en forme, hein, il est blessé, hein, arrivé blessé pour à minima 3 semaines, peut-être un petit peu plus d'ailleurs. Donc, il faut qu'il se remette en forme. Après, effectivement, Gareth Bale, demain, lorsque vous avez Son, Kane, ils sont indéboulonnables. Bon, il y a le troisième, c'était Lucas, par exemple. Peut-être que Lucas Moura, lui, en revanche, il va peut-être avoir quelques craintes. Lui, il est déboulonnable, en l'occurrence.
Dele Alli aussi.
En revanche, si vous arrivez à faire un Kane, Son, Bale, sur le papier, je pense qu'on est preneur.
On est dans le top 3 en première ligue, non, avec ce...
Oui, le problème, c'est que c'est pas qu'avec une ligne d'attaque que vous êtes en top 3.
Par contre, s'ils ont un Ndombele à ce niveau-là, ça peut être très intéressant.
Voilà, hier, il a
été très, très bon. Sur le premier ligue.
Au-delà de ça, il a eu beaucoup d'impact. Il a joué simple et il a fait les choses bien. Après, c'est surtout une question d'équilibre. C'est vrai que vous avez Gareth Bale dans votre effectif, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous allez changer la façon de jouer d'Harry Kane? Je pense pas. C'est votre leader d'attaque. Donc, c'est... La problématique, c'est comment Bale arrive dans cette équipe. Est-ce qu'il faut s'adapter à lui ou est-ce qu'il doit s'adapter aux autres? Moi, si je suis José Mourinho, je lui dis, il faut que tu t'adaptes aux autres, parce que les autres fonctionnent. Et Kane fonctionne depuis des années et Hong Min-son aussi. Hong Min-son, on le dit pas assez. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce que c'est pareil, il est dans une sélection, la Corée, dont on parle pas. C'est quelqu'un d'assez effacé, mais depuis 4 ans, si je me trompe pas, c'est un joueur qui met plus de 20 buts par saison, toute compétition confondue. Et c'est quelqu'un qui fait des doubles-doubles. C'est-à-dire qu'il est toujours au-dessus de 10-15 passes décisives par saison aussi. C'est pas n'importe qui a ces statistiques depuis 4 ans, c'est d'ailleurs la constance. C'est un joueur qui se blesse très peu, qui joue en moyenne 35 matchs par saison, donc c'est beaucoup. Et ça, c'est une bonne chose pour Tottenham, mais surtout pour José Mourinho, parce qu'il a besoin de faire une très grande saison, l'entraîneur portugais.
Et une chose positive aussi pour Tottenham, outre l'arrivée de Bale, l'arrivée de Reguilón. En défense, ça va vraiment aider cette équipe parce que défensivement, c'est là où le bas blesse. Alors vous avez Hugo Lloris qui fait ce qu'il faut. Après, défense centrale notamment ou sur les côtés, on a toujours des petits doutes. Reguilón, ça va peut-être aider et renforcer cette défense qui en a vraiment besoin.
Et par contre, Serge Aurier va les quitter pour sans doute le Spartak Moscou.
Exactement.
Merci de cette information, Patrick Juillard. Allez, il est temps de quitter l'Angleterre, messieurs, et de partir un petit peu au soleil.
Attendez, je ne voudrais pas vous interrompre, mais je pense qu'il vaudrait mieux aller droit au but.
L'Olympique de Marseille s'est sauvé de justesse hier face à Lille. Un partout, score final, mais les Olympiens auraient très bien pu perdre ce match. Luis Araujo a ouvert le score pour les Lillois et c'est Valère Germain qui a sauvé l'OM en toute fin de match.
Toujours mental parce qu'on allait le chercher à la fin. Maintenant, on n'a pas fait une belle prestation du tout. Au niveau de la qualité du jeu, on a été inexistant. Et si Lille mène de 2 ou 3 buts, il n'y a sans doute rien à dire. Mais le football, c'est comme ça. Tant qu'il y a 1-0, on peut revenir. Et, les rentrants, on a essayé de courir davantage, d'essayer de presser, de mettre un peu plus d'intensité. Et ça a payé sur un corner. C'est bien de revenir, mais c'est dommage parce qu'on vient de prendre un point sur 6 à domicile.
Inexistant en termes de qualité de jeu. Vous êtes d'accord avec Valère Germain, messieurs ?
Oh mon Dieu, ce qu'on a vu hier était un... C'était...
Le mot purge,
c'était presque
ça, hein.
Effarant en fait sur le plan technique. Mais de la part de tous ces joueurs, en fait, on peut parler de Payet, de Thauvin, c'était d'une imprécision technique. Boubacar Camara, pas du tout dans son match. Germain qui met un petit pic en disant « on a essayé de courir beaucoup plus », ça veut dire que ceux qui étaient avant lui n'ont pas couru. En fait, ce qui est inquiétant, c'est ce qu'on voit depuis maintenant un moment avec Marseille. Ils s'en sortent toujours parce que je pense qu'il y a un état d'esprit et Villas-Boas arrive à faire des changements au bon moment. Pour le coup, il fait des vrais bons changements. Je trouve qu'il amène quelque chose à son équipe quand il décide de changer. Il a pas peur de changer les cadres. Ça aussi, ça monte sa poigne sur cette équipe. Mais en termes de qualité de jeu, on débat souvent sur la qualité de jeu du PSG, mais si on débat sur la qualité de jeu de l'Olympique de Marseille, c'est très, très, très moyen. C'est-à-dire que, moi j'ai regardé ce match hier en tant que spectateur au stade, c'est vraiment très triste, quoi. Sur le plan technique, c'est très perfectible.
Habib, juste, je me permets, Marie-Amélie, de lui poser une question quand même. Il a connu ce stade Vélodrome, il a connu tous ces terrains. À un moment donné, ces matchs où vous vous loupez, ça arrive, hein, des matchs où techniquement vous êtes à côté, où toute votre équipe est à côté, sur 1, 2, 3, 4 matchs peut-être davantage, c'est quoi les ressorts possibles du coach, en fait, ou du coach ou du président, je sais pas, c'est sur quoi que ça joue?
À savoir si c'est un manque de confiance de la part des joueurs, je ne pense pas. Ils sortent d'une victoire face au PSG qui aurait dû leur donner un maximum de confiance. Donc, à un moment donné, c'est des automatismes, c'est des circuits de passe préférentiels que tu dois répéter pour que ton équipe justement soit...
Mais non, les circuits, ils sont connus aujourd'hui. Quand on sait que Payet, ça joue d'une telle manière, Thauvin, ça joue d'une telle manière.
Hier, il y a un problème qui se pose hier, c'est que t'as un Thauvin et un Payet qui sont très très loin l'un de l'autre. Et qui, de toute façon, n'ont pas voulu se donner le ballon hier. La réalité des choses, c'est que tu as vu Payet pester contre Thauvin parce que Thauvin était plus ou moins dans une mission un peu individuelle. Il faut faire attention. Et on en avait parlé ici lorsque le Marseille a battu le Paris Saint-Germain. On avait dit, OK, ils se sont battus comme des guerriers. Ils ont gagné 1-0 sur un coup de pied arrêté. Mais le niveau de jeu affiché par le Marseille au Parc des Princes était très, très moyen. Le niveau de jeu affiché par contre Saint-Etienne, très, très moyen. Quand on regarde aujourd'hui ces matchs-là, ils ont été inférieurs à Saint-Etienne en termes de jeu. Pour moi, j'ai vu une équipe de Saint-Etienne supérieure à celle de l'Olympique de Marseille. Et hier, moi, il n'y a pas photo entre les deux équipes. C'est-à-dire que si Lille mène 3-0, c'est fini. Bah, et Lille rentre à Lille avec une grosse victoire.
Il y a l'énorme occasion de Burak Yılmaz où il est à 2 mètres et il frappe le poteau. Si le Turc marque cette occasion, il y a 2-0 et je pense qu'on ne revoit jamais Lille à l'OM. Hein. Je veux dire, ils égalisent pas à 2-2. Hein. Ils n'avaient pas les ressources nécessaires. Il y a pour moi un problème que Habib a évoqué en parlant de l'éloignement entre Payet et Thauvin sur le terrain. Je trouve qu'en fait, il manque à l'OM un leader technique dans le cœur du jeu. Il y a Payet qui est sur un côté, Thauvin qui est sur l'autre côté. Mais est-ce que dans ce milieu de terrain, dans cet entrejeu, est-ce qu'il y a un joueur qui peut tenir la baguette si les deux excentrés ont un coup de moins bien? Je crois
c'est
pas.
C'est censé être Morgan Sanson.
C'est plus un joueur de, c'est pas un leader, Sanson, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui peut marquer des buts, mais il a pas.
Mais il a pas le charisme, il a pas le truc.
Il n'est pas dans ce rôle-là. Rongier, c'est un joueur qui travaille aussi, mais qui a pas non plus. Il manque peut-être, on a vu à Lille, ils avaient Benjamin André.
Je pense pas Soumaré que... aussi. Hein. Et aujourd'hui, Soumaré. Si tu me proposes Benjamin André, Soumaré ou alors Sanson et Rongier, je prends les Lillois.
Mais Benjamin André, techniquement, il est pas. Je pense pas qu'il soit foncièrement au-dessus d'un Rongier ou d'un Sanson, mais c'est un taulier, c'est un joueur qui est dans le cœur du jeu et qui peut recadrer ses coéquipiers. Camara, il est trop jeune pour ça. En plus, il est probable que vu le dossier Alvaro, il risque de retourner travailler en défense plutôt qu'au milieu, et ce sera plutôt Pape Gueye, à mon avis, qui jouera en 6. Donc il manque, je pense, le cœur du jeu n'est pas animé par un leader à l'OM, et sur certains matchs, ça fait un gros trou au milieu de l'équipe.
Mais ce qui est affolant, c'est qu'on a l'impression que cette discussion-là, on l'a quasiment depuis l'année dernière. L'année dernière, au final, l'effectif était quasiment le même, hein, grosso modo. Sauf qu'il y a eu un peu plus de réussite, évidemment. Il y a eu une saison qui a été tronquée, donc au final, on s'est arrêté sur la saison à 28 journées. Mais franchement, l'effectif était quasiment le même. Donc il y avait juste un peu plus de réussite. Peut-être des joueurs qui étaient un peu plus fit, pardon, mais on va s'attarder encore un instant sur le cas de Dimitri Payet. Face au PSG, il a eu cette réussite du coup franc parfait pour
Florent Thauvin. Oui, et puis il y a eu la réussite, c'est vrai, mais je trouve que contre le PSG, pour le coup, il a fait les efforts défensifs.
Mais
il s'est impliqué.
Tu peux pas te réjouir qu'un joueur fasse l'effort 5 fois par saison.
Ça, je te dis
que c'est Lyon, parce que c'est Paris, mais... Mais c'est insuffisant en termes d'abnégation, de l'implication pour ton équipe. Hier, par exemple, il est tellement agacé qu'il arrête de jouer. Ouais. Et il marche.
Final, Marseille, globalement, donc Payet, mais tous les autres, je vous rappelle, il y a eu la victoire face à Brest, 3-2, mais c'était une victoire à la Pyrrhus également, hein, vraiment en trompe-l'œil. Donc quand vous voyez tout ça, vous dites, avec cet effectif-là.
Heureusement qu'ils ont Mandanda et aujourd'hui Villas-Boas qui fait les bons changements.
Et dans pas longtemps, il y a la Ligue des Champions. La Ligue des Champions avec cet effectif là.
Mais bon, il paraît qu'une pépite va arriver en attaque.
Exactement, c'est ce que André Villas-Boas a annoncé après le match.
C'est un petit joueur de 18-19 ans qui peut jouer dans la très position d'attaque. C'est un pépite, comme vous me dites souvent, et j'espère qu'il va arriver avec un bon état d'esprit qui va nous aider cette saison. On attend après les choses médicales et tout ça pour vous confirmer le deal.
Un jeune de 18 ou 19 ans pour renforcer l'attaque marseillaise, donc, et plusieurs médias aujourd'hui comme l'Équipe ou RMC annoncent un joueur en provenance d'un club que vous aimez particulièrement, Patrick. Sur les conseils de David Finzel. Alors, ça vous dit quelque chose, Patrick ?
Botafogo, absolument. Club Carioca.
Eh oui, le club de Garincha.
Voilà, entre autres.
Dans les dos de tellement de joueurs, de toute façon.
Oui, bon, messieurs, est-ce que vous aviez entendu parler de ce petit Luis Enrique qui n'est pas encore un nouveau Ronaldo ?
Non. C'est une pépite parce qu'il est portugais-brésilien, c'est ça ?
Brésilien, ouais, c'est ça.
Bon, voilà. Doria était une pépite aussi. Barada était une pépite. Non, mais on a entendu le mot pépite et aujourd'hui il est employé à toutes les sauces, on va dire. On met pépite dès que c'est un jeune joueur. Donc la pépite, j'espère pour la pépite. Je sais qu'elle soit une pépite,
Je vais pas mentir aux auditeurs de RFI, je ne le connais pas ou je ne le connaissais pas avant. Après, en lisant notamment nos différents confrères, que ce soit l'Équipe, RMC et autres, on l'entend dire et qu'apparemment plusieurs clubs étaient intéressés par lui. On évoque la Juventus notamment qui était intéressée. Donc, est-ce à dire que c'est un potentiel intéressant, ben on verra.
Serait 10 millions d'euros pour cette transaction. Ce serait un contrat de 5 ans. Donc là, l'OM serait plutôt dans l'idée de prendre ce qu'on appelle des prospects, bon, pour pas dire pépites, des joueurs prometteurs qu'on essaye de
revendre dans 3 ans, 30 millions, 40 millions.
De faire progresser pour mieux les vendre. Une nouvelle stratégie, puisque jusqu'à présent, l'OM achetait plutôt des joueurs confirmés, opérationnels immédiatement. Maintenant, moi, la question, je connais pas ce joueur, comme vous, j'ai jamais, très honnêtement, jamais vu jouer ce joueur. Quelle sera sa complémentarité avec Benedetto? Est-il là pour s'associer avec l'Argentin ou pour le remplacer en poste pour poste dans un profil similaire? Ça, je ne sais pas.
Mais est-ce que justement, c'est pas un peu un désaveu pour Benedetto d'aller chercher un...
Non, parce qu'il a été blessé et qu'il lui faut malgré tout quelqu'un pour le suppléer. S'il part dans un système à 3 devant, Valère Germain, on le sait, tout seul devant, c'est pas forcément son meilleur poste. Il aime bien jouer avec quelqu'un. Ensuite, pour ce qui est de ce jeune joueur, il faut pas oublier qu'il faut pas se laisser appâter par le fait qu'il soit brésilien, qu'il ait coûté 10 millions d'euros. Radonjić, par exemple, a coûté plus de 10 millions d'euros. On voit qu'aujourd'hui, c'était aussi une pépite. Tout le monde parlait du nouveau Ronaldo avec son numéro 7, le style Ronaldo. On se rend compte que Radonjić, aujourd'hui, c'est très moyen.
On se rend compte que le côté pépite n'est pas lié à la nationalité, c'est presque lié à la somme d'argent. Si vous mettez une grosse somme,
et là, ça a l'air d'être
si ça coûte 10 millions avec ces Brésiliens, on te dit que c'est une pépite. Parce que tout le monde pense qu'on va trouver le nouveau Neymar et compagnie.
Par rapport à Benedetto, Benedetto a fait d'excellents débuts à l'OM à l'automne dernier. Mais depuis, avant un petit peu l'interruption du championnat, donc depuis décembre, janvier, il était quand même en déclin, en difficulté. Et sur le début de saison, bon, alors il a mis au Parc des Princes un but qui aurait dû être validé, certes, mais globalement, il n'a pas un rayonnement et on le voyait beaucoup proposer, on le voyait beaucoup se rendre disponible à ses débuts à l'OM. On disait c'est bien, c'est pas juste un finisseur, c'est quelqu'un qui a un milieu offensif, c'est un joueur qui apporte à la construction également. Là, on le voit plus faire ça. Oui, il y avait pas Thauvin. Mais on ne voit plus faire ça et effectivement le retour de Thauvin lui fait peut-être pas du bien puisque Thauvin prend pas mal de, il rentre beaucoup intérieur et où se placera Benedetto par rapport à ça, c'est une vraie question.
Bon, les attaquants marseillais en difficulté en ce moment, on verra si ce petit Luis Enrique, cette petite pépite deviendra l'un des meilleurs buteurs
pépite ou pas
de Ligue 1. Pour terminer, on va parler de ceux qui marchent très fort en ce moment.
Ganago en profite pour marquer son troisième but de la saison. Un pénalty transformé par Gaël Kakuta. Samuel Kalou, l'international nigérian, trouve la lucarne. Et la reprise de la tête d'un spécialiste, Steve Mounier. Le doublé pour Nian à 2 minutes de la fin. Et la reprise efficace de Stéphane Bahoken. Deuxième but de la saison pour Bahoken. Et une reprise de la tête victorieuse d'Andy Delors. Encore lui, le doublé d'Andy Delors. L'auteur du but nantais, c'est Moses Simon. Le voici enfin buteur, l'international nigérian.
Les buteurs africains de Ligue 1 en pleine forme en ce moment. Ils sont 8 à avoir marqué ce week-end, vous venez de l'entendre. Bon, on n'a pas le temps malheureusement de parler de tous les buteurs. On va être en ligne avec Stéphane Bahoken dans un instant. Juste avant cela, je voudrais qu'on s'arrête sur les deux Lensois. Le Camerounais Ignatius Ganago et le Congolais Gaël Kakuta. Déjà 3 buts chacun en 4 matchs. Ils sont tous les deux deuxième meilleur buteur du championnat, juste derrière Memphis Depay. Lens a trouvé deux profils assez complémentaires pour animer son
attaque. On peut parler aussi de Sotoka qui est pas africain mais qui forme avec eux un trio. Il y a le régulateur, c'est Kakuta, c'est le joueur qui oriente, qui a la manœuvre, qui distribue, qui est très clairvoyant, très précis dans ses passes. On le connaît, c'est un super technicien. On a un peu le détonateur qui est Sotoka. Bon, je passe vite sur lui, qui est un joueur qui provoque. Et on a le finisseur, c'est Ganago. Alors, beaucoup ont ricané quand on l'a vu quitter l'OGC Nice pour Lens contre la somme de 5 millions d'euros en disant oui, le directeur sportif de Nice est un vrai génie, arrivé à vendre aussi cher ce joueur. Mais à Lens, il marque beaucoup. Alors, il n'a pas une technique exceptionnelle, on va pas le surcoter, mais par contre, il est très efficace, il est rapide, puissant, il sait finir en général. Et il est surtout, à Lens, il a l'avantage extrême d'être utilisé à son poste, c'est-à-dire dans l'axe. Alors que Patrick Vieira, les deux saisons où il a coaché Nice, il l'utilisait toujours comme ailier gauche. Alors c'est vrai que sa vitesse peut apporter sur un côté, mais il est évidemment bien meilleur dans l'axe, et on le voit avec Lens. Avec moins de moyens, ils arrivent à produire quelque chose de plus cohérent que l'OGC Nice, qui a été très faible contre le PSG. Donc bravo à lui, et c'est très encourageant pour la suite. Et il aura peut-être l'occasion de le montrer aussi en équipe nationale, puisqu'il a été rappelé.
Tout à fait. Et donc il est associé à Gaël Kakuta, qui lui est un peu un vieux briscard qui a retrouvé son club formateur.
Oui, qui est revenu en fait. Il était à Amiens les deux saisons précédentes et il souhaitait revenir dans le nord puisque sa famille est de cette région. Il voulait s'en rapprocher. Et je pense que ce côté un petit peu cocon l'aide beaucoup à s'épanouir à Lens. Et on le voit, moi je me régale à regarder Kakuta jouer. Enfin, on peut regretter qu'il n'ait pas su trouver la bonne carburation plus jeune, parce que là il est plutôt en deuxième partie de carrière, mais c'était quand il est parti très jeune en Angleterre, sans doute trop tôt. Joueur est vraiment un meneur de jeu de classe internationale.
Alors on a évoqué Ignatius Ganago il y a un instant, place maintenant et surtout à un autre attaquant camerounais. Nous sommes ravis de l'accueillir dans Radio Foot. Bonjour Stéphane Bahoken.
Bonjour.
Alors, je le rappelle, vous jouez à Angers depuis 2018. Vous sortiez d'une saison un petit peu délicate avec pas mal de blessures, mais depuis la reprise, vous semblez beaucoup plus en forme. 2 buts en 4 matchs, dont 1 ce week-end contre Montpellier. Heureusement que vous avez marqué d'ailleurs, parce que Angers s'est incliné 4-1. Un peu plus sérieusement, est-ce que la longue pause de la Ligue 1 vous a fait du bien?
Oui, personnellement parlant, ça m'a fait du bien parce que j'ai bien pu récupérer par rapport à la saison passée et par rapport à toutes mes blessures. Donc ça a fait du bien physiquement, mais après mentalement, c'était dur de rester longtemps inactif, quoi.
Oui, Stéphane, bonjour et bravo pour ce bon début de saison. Angers a connu ces derniers mois certains soubresauts, il y a eu des départs, il y a eu des problèmes en interne. On sent pourtant que le groupe arrive encore à fonctionner. Est-ce que ça vous a malgré tout un petit peu affecté? Est-ce que vous êtes un peu interrogé?
Oui, on sait, beaucoup de joueurs sont interrogés parce que dans le club en interne, il y a eu énormément de départs comme vous avez dit. Il y a eu des problèmes extrasportifs, il y a eu aussi beaucoup de départs de joueurs. Donc, beaucoup de joueurs, on s'est posé beaucoup de questions, mais on a essayé de rester professionnel, de rester concentré et de se focaliser vraiment sur nous, le groupe et le terrain.
Bonjour Stéphane, moi je visualise vraiment ce début de saison qui est particulier pour tout le championnat, hein, à travers le Covid, la méfiance du Covid aussi. Dès qu'un joueur est positif, on se dit est-ce que ses coéquipiers le sont potentiellement, etc. Est-ce que ça traîne dans un coin de la tête tout en se préparant, en se disant bon sang, on sait jamais, ça se trouve mon partenaire a le Covid, donc faut que je fasse attention à l'entraînement. Est-ce que vous jouez normalement, est-ce que vous vous préparez normalement? Aujourd'hui il y a toujours une pseudo-méfiance ou quelque chose qui existe dans la tête?
Je dirais quand on a repris, oui, mais maintenant avec le temps, nous à Angers, on porte tout le temps le masque. On se fait tester 2 fois par semaine, donc cette peur-là, maintenant, on l'a plus. Mais je vous cache pas qu'en début de saison, il était vraiment présent. On avait beaucoup d'interrogations, de peur, mais maintenant, vu comment on se protège très strictement, on l'a de moins en moins.
Lors de non, c'est une bonne idée. Allez-y.
Juste sportivement, donc on l'a dit avec ce week-end, ce match malgré tout, même s'il y a eu ce but, ce match compliqué quand même, c'était pas évident justement de jouer cette rencontre et de le perdre ainsi.
Non, c'était pas évident parce que le coach a opté pour un nouveau dispositif qu'on avait encore jamais fait contre une équipe de Montpellier qui maîtrise très très bien le dispositif qu'ils ont fait. Malheureusement, je pense qu'offensivement on a pêché parce que voilà, j'étais un peu trop esselé. Mais je pense que ça va être une bonne classe qui va nous servir pour vite rebondir contre Brest et les matchs à venir.
Alors, lors de votre première saison avec Angers, vous aviez inscrit 11 buts en 32 matchs. Votre objectif, c'est de faire encore mieux cette saison?
Comme ces attaquants, c'est marquer le plus de buts possible et oui, logiquement oui.
Oui, Stéphane, on sait que vous êtes le fils d'un ancien grand international camerounais, Paul Bahoken. Est-ce que vous vous appelez toujours votre père après les matchs, comme quand vous étiez plus jeune à l'OGC Nice?
Oui, toujours, parce que il regarde tout le temps mes matchs, il me donne tout le temps des conseils, on va dire, crus. Voilà, il me dit t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et j'aime bien qu'on puisse en parler, qu'il me fait avancer en fait. Donc après chaque match, je l'appelle et pour vraiment avoir une. Hormis mon autocritique à moi, il y a vraiment la critique de son père qui était enfin un professionnel et qui me dit exactement les choses qui ne vont pas. Et c'est, je pense qu'en disant les choses qui ne vont pas, c'est ça qui fait que mais les matchs suivants, je m'améliore, je pense.
Stéphane, malgré tout, alors évidemment, c'est le respect du papa, donc on est obligé d'écouter, mais vous avez cette expérience qui, depuis de nombreuses années, c'est pas évident parfois de se prendre des dures critiques sur son jeu, non?
Non, c'est pas évident, mais honnêtement, avec j'ai l'habitude. Depuis que je suis petit, c'est comme ça, mais je commence à avoir l'habitude et en vrai, je préfère mieux entendre des mauvaises choses qui me passent avancer plutôt que des bonnes choses qui me fassent un peu me reposer sur mes lauriers, quoi.
Avec Angers, est-ce que vous vous sentez prêt cette saison à prendre encore plus de responsabilités devant, à vous affirmer un peu comme l'un des leaders sur le terrain, du terrain?
Oui, c'est pour ça que je suis venu à Angers, c'est pour être le leader de l'attaque. Voilà, l'année dernière, c'était une année un petit peu compliquée, et là, je me suis préparé en fonction pour cette année être le leader de l'attaque et aider l'équipe à se maintenir, qui est l'objectif principal.
Ah, c'est l'objectif numéro 1, le maintien cette saison?
Exactement, c'est ce que le coach et le staff nous a dit en début de saison.
Alors, il y a une semaine, Tony Conceição, le sélectionneur du Cameroun, a publié la liste des 32 joueurs présélectionnés pour le match amical face au Japon. Ce sera le 9 octobre. Vous n'en faites pas partie, Stéphane Bahoken. Comment est-ce que vous avez digéré la nouvelle ?
Ben, je n'ai pas trop compris. Après, c'est encore une fois, c'est les choix du sélectionneur. Moi, je sais que je joue, je me prépare bien, je suis décisif. Et voilà, il a fait ce choix-là de ne pas me prendre. Donc j'ai quand même eu un peu déçu par rapport à ce choix-là, mais bon, encore une fois, c'est le choix du sélectionneur et c'est à moi d'être encore plus décisif avec le SCO d'Angers pour être dans la prochaine ligue. Mais très honnêtement, c'est vrai que j'ai pas trop compris son choix.
Je rappelle que vous avez 10 sélections et 3 buts avec le Cameroun. Vous pensez que vous méritiez d'être sur la liste ?
Ben, sur une liste quand même établie de 33 joueurs, je pensais avoir mes chances. Après, c'est pas l'avis du coach, donc c'est comme ça, mes joueurs. Donc la seule réponse que je peux lui donner, ça sera sur le terrain, de continuer à décider pour l'équipe. Et je pense que les listes suivantes, il me redonnera ma chance peut-être.
Vous jouez pour le Cameroun qui va accueillir la prochaine CAN, qui a été un petit peu repoussée d'un an en raison des circonstances sanitaires. Est-ce que c'est pas difficile quand on est international de ne pas avoir de match à enjeu, puisque le Cameroun est qualifié d'office, donc de jouer dans une sorte de match amical permanent, comme ça?
Oui, c'est un petit peu difficile, mais très honnêtement, que ce soit des matchs presque amicaux, c'est jamais des matchs amicaux, on a tout le temps envie de les gagner. Avant de faire la CAN en Égypte, on a joué tous nos matchs comme si on n'était pas encore qualifié. Donc, c'est pas forcément, déstabilisant, mais on joue chaque match pour les gagner.
Stéphane, je reviens un instant sur la liste de votre sélectionneur, M. Conceição, avec donc votre non-sélection. Est-ce que vous avez pu échanger, discuter avec lui ou pas du tout ces derniers temps ?
Pas du tout. Pas du tout. Depuis qu'il est arrivé, je n'ai pas échangé, comme avec le précédent sélectionneur. Comme j'ai dit, je fais le dos rond et au terrain, je ferai ce que j'ai à faire, hein, simplement.
On espère qu'il va apprendre le français, qu'il va vous appeler un jour, Stéphane. Hein, mais ça, Montpellier, pour revenir à ce match, ça devait vous rappeler des bons souvenirs, non ? Vos débuts en Ligue 1.
Oui, ben oui.
Vous vous rappelez de ça ?
Exactement, mon premier match titulaire en Ligue 1 avec le tennis au Stade du Ré. J'avais mis un doublé. À l'époque, il y avait déjà Congrès et Hilton.
Hilton est toujours là, de toute façon.
C'est un jour sans fin avec eux.
Exactement, c'est incroyable de les voir encore à ce niveau-là, tant de temps après. Et c'est vrai que depuis ce premier match-là, je marque beaucoup contre Montpellier. Hein.
Juste, je me permets de profiter de la présence d'Habib Bey qui est en plateau. Habib, juste, quand on voit un tel joueur Stéphane, vous avez eu une telle expérience de la Ligue 1, est-ce que vous pouvez lui donner un conseil pour qu'il puisse grandir et être encore plus fort et aller dans un plus grand club bientôt ?
Mais déjà, il a l'air ambitieux, c'est déjà le plus important lorsque vous êtes attaquant. Il a envie de travailler, il l'a dit, il a subi une saison un peu difficile l'an passé, mais c'était le cas pour beaucoup de footballeurs avec cette situation. C'est peut-être la saison la plus difficile pour Angers cette saison, parce qu'on se rend pas compte, on parle beaucoup de la dalle angevine, mais c'est une équipe qui a subi des petites secousses quand même en intérieur avec Piqueux qui est parti, donc il faudra pour Angers essayer d'être très performant, et ça passe par un Bahoken très performant, donc je lui souhaite la meilleure saison possible.
Et quand c'est Habib Bey qui donne de tels conseils à Stéphane Bahoken, là il peut qu'écouter, hein.
Oui, clairement. Merci beaucoup.
Merci Stéphane.
Angers qui reçoit Brest dimanche, on doit s'arrêter là effectivement. Merci beaucoup Stéphane Bahoken d'avoir été en direct avec nous dans Radio
Merci
Foot.
Merci à vous.
À très bientôt, j'espère. Et puis, merci à vous, messieurs Salim Bongali, Habib Bey et Patrick Chouillard. Aujourd'hui, c'est Alice Ménard qui était à la réalisation. Un grand merci à elle et à David Finzel, évidemment. Demain, vous retrouverez Annie Gasnier aux commandes de Radio Foot International. Très bonne soirée sur RFI.